Ouais, c'est bon. Donc bonjour, bienvenue à tous. Merci, merci d'être tous ici, ça fait plaisir de vous voir. Alors, on vous souhaite bien la bienvenue pour le culte du retour du camp de ski, organisé par CTT et GPS. Donc voilà, ça fait grand plaisir de vous voir et on va commencer ce culte par une petite animation. Voilà, je vais appeler Rachel et Robin. On va faire une petite animation pour commencer ce culte de manière joyeuse. Et voilà, je leur laisse la parole.
Alors, bonjour à tous. Donc, nous, on va commencer par un petit jeu de mime. Alors, les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est des mimes ? Oui ? Ok, parfait. Les adultes, je pense que vous savez. Alors... pour ce jeu, du coup, on aurait besoin de deux adultes. Est-ce qu'il y a des volontaires ?
Olivier, que Jean.
Alors, vous pouvez venir sur scène. Et puis, parmi les enfants... Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire des mimes ? Ouais ? Alors, vous pouvez venir à côté du monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire ? Toi ? Viens. Ok. Alors, je vais vous expliquer le jeu. Parce que ce sera trop facile de faire des mimes tout simple comme ça. Donc, on va faire passer une photo. Et puis, il y aura un adulte qui sera dos à la photo, donc il ne verra pas la photo. Et puis, les enfants, vous allez regarder la photo qui est là, et puis vous allez devoir mimer la photo. Okay, donc, on ne parle pas, on fait juste des gestes qui font la même chose que ce qu'il y a sur la photo. Et puis, l'adulte qui est là, il va devoir deviner ce que c'est. Donc, on va faire en deux fois. Donc, on va commencer, vous deux, vous allez commencer. Et puis, Xavier, tu pourras deviner. Okay, donc les autres, vous pouvez rester juste à côté, puis vous jouerez après. Alors, ouais. Donc vous pouvez vous mettre devant, vous allez regarder la photo qui va apparaître, et puis vous allez faire la même chose. Okay, puis vous ferez après, d'accord ? Et puis Xavier, bah, tu regardes les enfants, et puis tu essayes de deviner. Alors.
Le jour du piano.
Ouais. Alors, il n'y a pas que du piano. C'est un mot un peu plus large. Non. Oui. Ok, parfait. Alors maintenant, vous pouvez aller vers Xavier là-bas, puis vous deux, vous pouvez mimer. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous savez ce que c'est ? Non. Alors, est-ce que tu veux les aider à mimer ? Parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Avec mes slides. Ok, curling. Alors, vous pouvez rééchanger. Il y a encore deux photos. Vous voulez revenir faire ? Tu veux revenir ? Ouais. Voilà. Alors, vous pouvez mimer ça.
Ouais.
Ok, et puis un dernier.
La nourriture, le repas.
Ouais, la nourriture. Bravo. Bah, merci à tous pour votre participation. On peut y aller, c'est bon, c'est fini. Et je laisse...
Ça vous a plu les enfants? C'était bien? Ouais, trop cool. Ça vous a plu les adultes? On peut quand même essayer. Alors maintenant, les enfants, vous allez pouvoir rejoindre votre école du dimanche. Et avant, je vais juste prier pour vous, d'accord? Seigneur, je voudrais te remercier pour chacun des enfants qui est ici. Et je voudrais aussi te prier pour le moment qu'ils vont passer en groupe. Et je te prie vraiment qu'ils puissent se rapprocher de toi, Seigneur. Et qu'ils puissent vraiment passer un bon moment. Et je te prie aussi pour les moniteurs, qu'ils aient la patience et qu'ils montrent qu'ils sont des petites lumières. Et que ouais, je te prie vraiment pour l'école du dimanche qui va suivre, Seigneur. Amen. Les enfants, du coup, vous pouvez y aller.
Ouais, ouais. Alors, vous savez, les camps de ski, c'est beaucoup, beaucoup d'animation, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Et puis, c'est aussi des choses qu'on va vivre concrètement et qui aussi changent nos vies après. Et du coup, je vais juste inviter Dominique qui va venir vous faire un petit témoignage et qui va vous raconter ce qu'il a vécu pendant le camp de ski.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dominique, j'ai 18 ans. Et pendant les vacances de Noël, j'ai pu participer en fait pour ma première fois à ce camp de ski. Et je voulais bien partager avec vous en fait deux choses qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont touché en fait pendant ce camp. Et la première chose, c'était le 31 décembre en fait, du coup, nouvel an. Et je trouve vraiment que toute la soirée en fait était vraiment super et... Il y avait des moments un peu plus drôles, comme je veux dire, les sketchs qu'on avait fait, en fait pendant toute la semaine. On avait fait des jeux aussi et on avait fait aussi des petites compétitions entre les cellules. Et, ça, c'était des moments vraiment drôles, mais il y avait aussi des moments beaucoup plus sérieux et au niveau spirituel, en fait, ce soir-là. Et ça, c'était surtout à partir de minuit. On était sortis, en fait, on avait fait une petite balade dehors et on s'est mis autour d'un petit feu. Et Luc Olivier, du coup, le pasteur qui nous avait accompagnés en fait pendant la semaine, il avait fait un petit message d'encouragement pour cette prochaine année en fait. Et voilà, ça du coup, ça m'a beaucoup encouragé déjà. Et après ce message, on avait deux possibilités en fait. Soit on allait à la disco qui était préparée par les moniteurs, soit on allait faire de la louange dans la chapelle qui était à quelques mètres du chalet. Et bon, pour la disco, je ne sais pas exactement comment c'était, parce que j'y étais pas très longtemps. Mais d'après ce que j'ai entendu, y avait beaucoup de plaisir et de rigolade. Mais pour ceux qui étaient louanges dans la chapelle, j'avoue que ça, c'était vraiment un moment très intense. Et il faisait très froid, mais bon, ça, après, ça faisait un petit vibrato naturel encore, mais bon. Et voilà, du coup, on avait commencé à faire des chants à quatre voix. Après, il y avait Jean-David, il avait amené sa guitare encore et c'était vraiment un moment très intense, je trouve. Et pour moi, c'était une des meilleures manières pour commencer cette nouvelle année avec Dieu, en fait. Et voilà, c'était vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué aussi pendant cette semaine, c'était l'accueil, en fait, des jeunes dans le groupe de jeunes. Parce que voilà, je connaissais personne, en fait, encore et ils ne me connaissaient pas. Et bah, du coup, en fait, je trouve que ça ne vient pas de soi, qu'on ne se sent vraiment pas isolé ou mis de côté ou quoi que ce soit. Mais voilà, je me sentais en fait comme si j'appartenais toujours à ce groupe de jeunes. Et voilà, bah, je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Et voilà, du coup, ça aussi, ça a aidé que je pouvais faire, ou ouais, j'avais des très belles discussions en fait avec beaucoup de jeunes. Et parfois c'était sur des thèmes un peu plus sérieux, parfois un peu moins. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'a vraiment aidé à pouvoir apprécier cette semaine. Et voilà, sur ces mots, je voulais vraiment remercier tout le groupe des moniteurs qui ont aidé à organiser et à préparer ce camp. Et voilà.
Merci beaucoup, Dominique. Alors maintenant, je vais juste inviter Simon et Maxime qui vont nous apporter la prédication. Et du coup, je vais prier pour les deux. Voilà. Seigneur, je voudrais te prier pour Maxime et pour Simon et pour ce qu'ils vont nous apporter. Je te prie qu'ils puissent sentir ta présence et qu'ils sentent que tu es là et que tu les tiens par la main pendant ce moment-là. Ça peut être stressant, ça peut être assez intimidant. Et ouais, je voudrais vraiment te prier qu'ils puissent apporter ce que tu souhaites qu'ils apportent, Seigneur. Amen.
Bonjour. Une des choses qu'on a vécues en tant que disciple pendant ce camp, c'est de vivre un peu plus en détail comment est-ce que la Bible peut nourrir notre vie de prière. On a vécu une lectio divina. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique, on va dire, de méditation d'un texte où on prend le texte, on le médite en trois moments différents, trois moments de silence, avec une orientation différente à chaque fois. Et ça, c'était un petit peu une découverte pour pas mal de jeunes à ce camp. C'est une démarche particulière qui nous permet de prier avec comme référence la parole, les Écritures, et non pas nos propres circonstances. On vient chacun au camp de ski avec quelque chose de différent. Et en fait, cette démarche, elle nous permet de vivre tous la même chose, à notre façon. Ça change notre façon de prier, en fait. Et au-delà, ça peut même changer nos cœurs. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager une partie de ce qu'on a vécu cet hiver au camp et comment est-ce que Jésus nous enseigne à prier au travers des Écritures et comment est-ce que ça peut changer notre façon de prier. Le texte que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le texte du Notre Père. Avec les quelques versets qui le précèdent. Alors, je vais le lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Et voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cet enseignement est aussi relaté dans Luc 11, avec quelques points en moins. Néanmoins, le contexte semble être le même, c'est celui du sermon sur la montagne qu'on a vu tout le long du camp de ski. Ce sermon, il se situe au début du ministère de Jésus et commence par les béatitudes. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, etc. Jésus, en fait, prend à part ses disciples et monte sur une colline. Le sermon est une sorte de séminaire particulier pour les premiers disciples, et Jésus va justement le renseigner sur ce qu'est être disciple, sur les valeurs du royaume, sur comment se mettre à sa suite. C'est donc ce à quoi on s'est intéressé pendant le camp qu'on a vécu cet hiver. Et les versions que nous livrent les évangélistes, donc Matthieu et Luc, sont pas des retransmissions exactes du sermon, mais ils nous livrent en quelque sorte les points clés, ce que les disciples ont retenu, les pierres de touche de ce qu'est être un disciple, et il en est probablement de même pour le Notre Père. Comment la Bible nous enseigne à prier ? Alors, la Bible, c'est peut-être pris un titre un peu vague, parce que je vais voir un texte et uniquement seulement certains aspects de ce texte. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus commence son enseignement sur la prière par un contre-exemple, les pharisiens. Il met en évidence leur motivation égoïste de la prière, au verset 5. Ils ne sont pas en train d'aimer Dieu. Ils n'aiment pas la prière en elle-même, mais ils aiment la possibilité qu'elle offre de montrer leur spiritualité, de faire grandir leur réputation. De nos jours, c'est vrai que c'est un peu moins bien vu de prier à haute voix au coin des rues, mais la religiosité des pharisiens est loin d'être morte, et on peut encore la retrouver en nous. Combien de fois est-ce que j'ai prié, non pas pour entrer en relation avec Dieu, mais pour me rassurer moi-même sur l'état de ma spiritualité? Et c'est ce que Jésus veut combattre dans l'exemple du Notre Père. Il commence par un rappel sur la personne à qui nous adressons. Dieu, notre Père, une personne qui est proche, qui nous aime d'un amour que nous peinons toujours encore à comprendre. Ce Père qui est dans les cieux, qui est en fait Dieu, digne d'être reconnu comme tel, digne d'être adoré. Que ton nom soit sanctifié, c'est demander que notre vision de Dieu soit plus juste, notre vision de qui il est réellement soit rendue sainte. C'est un appel à rechercher Dieu, à apprendre à le connaître toujours plus, car la vision que nous en avons est loin d'être parfaite. Il vient ensuite une demande. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cette demande, elle découle du fait que la prière, elle est une relation avec Dieu. Elle découle du fait que c'est une recherche de sa personne. Et du coup, si on recherche sa personne, on recherche aussi qui il est, ce qu'il veut et l'avènement de son royaume. Dans Notre Père, on voit aussi dans toute la prière qu'il y a une structure, un ordre des priorités. La volonté de Dieu, qui il est, son royaume passe avant mes besoins, mes envies. Loin de les ignorer, cette prière donne leur juste place à mes besoins, mes envies. Après, la relation avec Dieu vient nos demandes, besoins et supplications. S'inspirer des Écritures pour prier. Les exemples que je vous ai donnés avant, c'est des vérités théologiques qu'on peut retrouver tout au long de la Bible. En effet, la Bible, elle nous apprend à qui nous nous adressons quand nous prions. Elle est le début de la conversation qui a été initiée par Dieu. Et c'est l'immersion dans les Écritures qui nous apprend à prier. Eugène H. Peterson, lorsqu'il analyse les prières des personnages bibliques dans « Répondre à Dieu », dit « Ces prières ne viennent pas de gens qui essayaient de se comprendre eux-mêmes. Elles ne sont pas des quêtes du sens de la vie. Elles étaient faites par des gens qui avaient compris que Dieu et non leurs sentiments étaient centrales. Leurs expériences humaines peuvent engendrer des prières, mais elles ne les contiennent pas. Ce n'est pas une simple croyance en Dieu qui les conditionne, mais c'est la doctrine de Dieu. Et le Notre Père ne fait pas exception. Il est une antidote au travers de nos sociétés hédonistes, où tout est centré sur le plaisir, le bien-être et le bonheur immédiat d'un individu, moi. Il est le remède lorsque nos prières deviennent une simple liste de courses, faisant ressortir notre côté religieux, ou quand la prière n'est qu'un moyen d'obtenir au lieu d'être un moment de relation. Prier par les Écritures, c'est pas réciter les Écritures. C'est méditer, parfois en silence, comme nous l'avons fait au Kanski, ces textes inspirés par le Saint-Esprit et qui nous inspirent, nous, encore aujourd'hui. C'est dégager les vérités du texte et les laisser transformer notre relation avec Dieu, laisser modeler nos discussions avec Dieu. J'ai envie de prendre un exemple, Martin Luther, qui écrit dans une manière simple de prier, qui est une réponse à des questions d'un certain Pierre. Donc là, il commente le Notre Père, en fait. Il prend un aspect du Notre Père et explique comment il déduit une prière de ça. Alors, je ne vous ai pas tout mis parce que le commentaire est assez long, mais je vais juste vous le lire. Donc là, il commente... la partie où il y a de nous notre pain quotidien. De nous un temps favorable et les fruits de la terre. Je te recommande aussi ma maison, mes biens, ma femme et mes enfants. Aide-moi à les bien gouverner et fasse que je puisse les nourrir et leur assumer une éducation chrétienne. Résiste et mets un frein aux corrupteurs et à tous les mauvais anges qui nuisent et mettent un obstacle en ce domaine. Amen. Donc là, Luther donne un exemple, il en fait plein, je vous encourage à lire ça, vous le trouvez assez facilement sur Internet, c'est une manière simple de prier. Et j'ai envie aussi de vous lire le commentaire qui suit. Donc il a fini son commentaire et là il dit « Sache-le aussi, je n'entends nullement que toutes ces paroles soient prononcées dans ta prière, car elles se mûraient en définitive en un vain babil et un verbiage vide, lu dans ton livre ou mot à mot, comme l'ont été les chapelets des laïcs et les prières des prêtres et des moines. Au contraire, j'ai voulu par là même échauffer ton cœur et lui indiquer quelles pensées il doit saisir dans le Notre Père. Mais ces pensées, ton cœur, s'il est bien échauffé et disposé à prier, peut les exprimer par bien d'autres paroles, bien moins ou bien plus nombreuses. En effet, moi non plus, je ne me lis pas à ces paroles et syllabes. Mais je dis aujourd'hui ainsi et demain autrement, les paroles vers lesquelles je me sens enclin et disposé. » Luther, ici, nous montre que la récitation mécanique n'est pas une prière, ce n'est pas relation avec Dieu, parce que Dieu est une personne réelle et pas une idole qui se satisfait d'une formule magique. Bien sûr que l'apprentissage par cœur peut nous aider à méditer ces textes, mais ce n'est pas un but en soi, c'est qu'un moyen de méditer le texte. La Bible nous enseigne que la relation avec Dieu demande d'y consacrer tout notre être, y compris notre intelligence. La prière basée sur les Écritures n'est évidemment pas le seul moyen de prier selon ce que Jésus nous enseigne. C'est un exemple que je tire de ce texte. Et cette forme n'en exclut pas d'autres, loin de là. Mais lorsque les Écritures servent de modèle à nos prières, alors nous sommes bel et bien en train de répondre à notre divin Père qui siège dans les cieux. Nous pouvons désirer sa volonté, vouloir que son règne vienne. Nous savons que nous dépendons de lui chaque jour, que son pardon nous est accordé, qu'il ne nous tentera pas. Et je vais conclure. Il existe encore d'autres textes dont on peut s'inspirer, comme la prière de Paul dans les Éphésiens, le texte des armes du chrétien dans Éphésiens, le psaume 119, etc. La Bible est très riche de ce point de vue-là. Alors ce que je nous encourage à faire, nous, en tant que corps du Christ, c'est à méditer la parole, à saisir comment la Bible nous enseigne à prier et à apprendre à prier par les Écritures, parce qu'elles guident nos cœurs vers Dieu et qu'elles nourrissent notre relation à Dieu. On a aussi envie de vous partager, en tant que groupe de jeunes, un peu plus de ce qu'on a vécu pendant ce camp et comment ça change nos vies de disciples. Alors je vais laisser Daphné vous en parler.
Bonjour. Alors moi, j'avais envie de vous parler du thème du Kansky. Donc c'était le discipulat. Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple et faire des disciples? Et c'était une question que moi, je ne m'étais pas vraiment posée avant le Kansky. Je ne m'étais pas demandé qu'est-ce que ça veut dire être un disciple, parce que c'est vrai qu'on le voit dans la Bible. Et donc dans ma tête, ça voulait dire suivre Dieu, mais c'était assez vague comme définition. Et le deuxième jour, Luc Olivier, donc le pasteur, a prêché sur les béatitudes et il a fait un parallèle entre les béatitudes et le chemin du chrétien. Donc avec toutes les étapes, donc premièrement reconnaître qu'on est pécheur, s'en attrister, chercher Dieu, et etc. Et pour finir sur l'impact que ça a sur les autres. Et dans son message, il nous a donné comme définition qu'être un disciple, c'était être en chemin avec Dieu. Et c'est une définition que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que, en fait, la finalité, on la connaît et c'est ce vers quoi on tend. Mais à l'heure actuelle, moi, je suis disciple parce que je suis en chemin avec Christ. Et j'ai beaucoup aimé ce camp parce que ce message, il c'était vraiment comme une invitation à regarder où on en était avec Dieu, à prendre le temps de savoir où on en était, quelle place occupait Dieu dans notre vie et qu'est-ce qu'on voulait vivre avec lui par la suite. Et pour ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a permis de réfléchir aussi sur mes envies, là où j'allais, etc.
Je m'installe. Alors, tout comme Simon a pu en parler avant, on a eu l'occasion de faire une Lectio Divina durant ce camp. Et c'est des textes qu'on a abordés durant cette Lectio Divina que je vais vous parler aujourd'hui. En l'occurrence, nous pouvons lire dans Matthieu 5 au verset 38. Donc je vous laisse sortir vos Bibles et lire avec moi parce que j'ai pas de support, j'ai pas de diapositive, donc ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc Matthieu 5, verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Ça prend déjà, comment dire, la façon de vivre des gens à l'époque. Jésus, donc, dans le serment sur la montagne, s'adresse aux disciples en disant « Voilà, vous avez appris ceci, c'est votre manière de vivre ou la manière de vivre du peuple. » Et il rétorque directement avec les versets 39 à 45 avec des situations assez concrètes. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te veut un procès et veut prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je m'arrête là pour l'instant. Jésus rétorque avec ça, qui sont des exemples très concrets, et on a un enseignement vraiment fondamental qui nous est donné ici. Ne nous fondons pas à la justice humaine, mais fions-nous à la justice de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi me demandez-vous ? C'est tout simple, parce que nous ne sommes pas envoyés en tant que juges. Notre rôle n'est pas d'être juge, mais notre seul rôle auquel nous sommes ramener ici, notre identité, notre mission, c'est aimer. Aime ton Dieu comme toi-même et aimez-vous les uns les autres. Je reviens au texte. Ici, Jésus, il n'est pas en train de nous poser plein de contraintes. On le relira un peu différemment après. J'ai volontairement pris un ton un peu, simple. Mais ici, Jésus nous fait directement un encouragement. Pour une fois, nous, chrétiens, on est souvent à se dire « Ah oui, mais on veut du concret, la Bible, c'est pas forcément de nos jours, ou je sais pas quoi. » Là, il nous en donne, justement. Donc, je vais juste faire un petit détour par la définition du verbe « aimer » et du mot « amour ». Si je peux les retrouver. Alors, « aimer, éprouver de l'affection, de l'amitié, de la tendresse, de la sympathie pour quelqu'un. » Dit comme ça, c'est bien gentil, ça ne relève pas forcément énormément de ce que c'est réellement, de ce sentiment qui, au final, est assez inné pour chacun, dont tout le monde comprend le terme naturellement. Si on va dans amour, la définition de base n'est pas forcément meilleure. Disposition favorable de l'affectivité, de la volonté à l'égard de celui qui est senti ou reconnu comme bon. Donc bon, voilà. Mais la définition suivante nous donne déjà un peu plus de pistes là-dedans. Disposition à vouloir le bien d'une entité humanisée et se dévouer à elle. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus profond comme terme, et on vient directement à se poser la question, mais au final, voilà, ce mot « aimez-vous les uns les autres », qu'est-ce que ça comprend ? J'en lis d'une traduction, d'un dictionnaire anglais. L'amour est un sentiment qui dépasse tout ce qu'il y a de physique. Aimer est une profonde affection liant une personne à une autre. La moindre petite pensée procure une joie et espérance non mesurables. On en revient au texte. Jésus nous donne du concret et je vous propose de relire ce texte avec un peu plus d'entrain et de joie là-dedans. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et te prendre ta chemise, mais donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, vas-y, fais-en deux avec lui. Et ne te détourne surtout pas de quelqu'un qui veut te faire un emprunt, donne-lui avec joie. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent, afin d'être les fils de votre Père céleste. La première partie du texte se résume parfaitement en la fin, afin d'être les fils de votre Père céleste, afin d'être pleinement ce pourquoi vous avez été créés, afin d'être à l'image de votre Créateur, amour. Dieu nous rappelle ici qu'on a été créé à son image et il veut que nous soyons comme lui. Passons à la deuxième partie du texte. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples ne font-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. À son image, oui, c'est bien beau, mais à quelle image ? Jésus ici nous donne de nouveau du concret, il nous montre des exemples. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. En effet, il met son soleil sur les bons et les pas bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc la même chose, soyons comme lui. N'ayons pas de conditions à notre amour, ne disons pas « celui-ci est mon frère, ainsi je l'aime ». Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire à ce moment-là ? Par là, il nous compare même aux collecteurs d'impôts. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les collecteurs d'impôts, c'est probablement ceux qui ont la pire réputation du peuple. Ainsi, il vient choquer directement les gens dans leurs propres sentiments et se dire « mais je ne veux pas être comme eux ». Et de se dire « bah si au final je ne fais rien de plus qu'eux, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable ? Quelle récompense est-ce que je mérite ?» Donc c'est ça. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ayez un amour inconditionnel pour tout le monde, que ce soit votre frère ou non. Soyez parfaits afin d'être pleinement les fils de votre Père céleste. Soyez parfaits afin de faire pourquoi vous avez été créés. Je vais conclure par la prière. S'en suivra un temps de silence, puis un temps de prière libre. Seigneur, c'est dans la faiblesse de nos têtes que nous te faisons ces requêtes. Aide-nous à déserter la justice humaine afin de nous plier à la tienne. Accompagne-nous sur ton sentier. Viens mettre en nos cœurs ton amour et le profond désir d'aimer. Nous te remercions car tu nous as créés et aimés le premier. Nous te remercions car tu nous as donné notre identité et un avenir auquel espérer. Pardonne-nous toutes les fois où nous faillissons à suivre ta voie. Nous ne saurions oublier le sacrifice de Christ qui pour nous a payé. Amen.
Amen. On va à présent vivre un moment de louange, un peu différemment que d'habitude. Et déjà, j'invite et je remercie vraiment toute l'équipe louange et je les invite à avancer. On va vivre un moment de louange où la scène aura lieu au milieu. Voilà. Et en fait, toutes les informations vont être affichées. Voilà. Et on vous invite juste à vraiment vivre le moment de louange à fond. Et voilà.
Bonjour, j'invite à vous lever, passer un moment de louange. Je vais juste introduire un petit peu en expliquant un petit peu comment j'avais choisi les chants. Genre aussi, comme on avait envie, tous les jeunes, de vous montrer un petit peu ce qu'on a vécu au camp. On voulait aussi, donc c'était plutôt par rapport à... être une lumière pour les autres, être flashy et salty, comme disait notre orateur. Être sel et lumière. Et ouais, simplement se mettre en marche et puis être des lumières dans le monde, être des prismes au travers desquels la lumière de Dieu puisse rayonner. Vous êtes à chanter Christ est la lumière.
Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu. Tu as ouvert ta grâce à bouleverser le cours de notre humanité. Tous qui reflètent le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur.
Chanter le prochain en pensant le refrain qui dit « Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. » Et le couplet qui dit « Dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. » Et comme on l'a entendu ce matin avec les deux prédications, vraiment pouvoir être des disciples, se mettre en marche, désirer sa volonté plutôt que la nôtre.
Oublier la peine. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvrais la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là,
a cru à notre prédication. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer notre regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche.
Seigneur, Papa, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. T'es venu, t'es descendu sur terre, t'es mort, t'as pris tous nos péchés, Seigneur. Et après, t'as vaincu la mort, Seigneur, t'es ressuscité. Et je voudrais tellement te remercier pour tout ce que t'as fait, pour le sang qui a coulé, Seigneur, et pour tout ce que t'as pris pour nous. On pourra jamais, nos merci sont pas assez, Seigneur, et je voudrais vraiment qu'on prenne un temps pour s'en rappeler ce matin, Seigneur.
tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau.
On va chanter un nouveau chant, encore, me direz-vous. J'avais envie de vous partager ce chant, on avait envie de vous partager ce chant, parce que j'étais un peu poussé. Parce que, déjà un, il va bien dans le thème, il s'appelle Lumière, donc c'est composé avec participation de Sylvain, Philippe, Clément et Alexia. Et j'ai composé ces paroles pendant ou juste après le chant, je ne sais plus exactement, mais... ça me touchait particulièrement de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est aussi le Skanski qui porte ses fruits, qui enfin, c'est incroyable, comme c'est un coup de boost à chaque fois, chaque année. Enfin, l'année passée, je me suis dit, bon, je fais encore un camp de ski, après j'arrête le groupe de jeunes, et puis voilà, 2 mois après, je suis responsable. Et puis, ce camp de ski, enfin, ça m'a vraiment donné un bon coup de boost niveau artistique. Enfin, j'aime beaucoup écrire de base, et puis enfin, là, j'arrêtais plus. Enfin, c'était incroyable. Et le refrain de ce chant... Il dit quoi déjà? Ah oui. Je voulais écrire un chant par rapport à Dieu créateur, au Dieu qui crée tout et Dieu qui a amour aussi, aux deux en même temps. Et le refrain de ce chant, il dit: tu as créé le soleil pour éclairer le jour, tu as créé la lune pour éblouir la nuit, et tu nous as créés pour éclairer d'amour un monde qui se plonge dans l'éclat de minuit. Et je trouve que c'est à ça qu'on... Enfin, on est créé pour ça, quoi. On est vraiment créé pour être des petites lumières dans ce monde et ouais, éclairer tout le monde d'amour. Puis pour une fois, c'est pas un chant contemplatif.
Chemin et nos aspérités, sa lumière nous aveugle, on ne voit que sa gloire, elle nous lendemain, elle est la vérité. Voulu sur terre, tu as créé le soleil pour éclairer le jour, tu as créé la lune pour éblouir la nuit, et tu nous as créé pour éclairer d'amour un monde qui se plonge dans l'éclat de me rassure, elle est un doux foyer, elle réchauffe les murs, pétrifié de mon cœur, ta lumière brûle des vents, incendie les nuitées, elle embrase tous ceux qui fuient tes lueurs.
Je reflète la beauté. Merci beaucoup pour l'équipe Louange et pour ce chant magnifique qui nous rappelle qu'on peut être vraiment des belles lumières dans le monde. Et j'arrive pas à trouver une bonne transition, c'est nul. Mais voilà, je vous invite, on va passer à l'offrande. Et voilà, c'est bien sûr, on va faire passer les paniers, c'est vous donner comme vous voulez. Voilà. Et j'invite ceux qui s'occupent de l'offrande à venir.
Juste prier pour l'offrande. Seigneur, je voudrais te remercier pour toutes les personnes qui ont pu donner et je te prie aussi de guider les personnes qui vont devoir gérer tout cet argent et de pouvoir les mettre au bon endroit et que, afin que ça puisse servir vraiment l'Église, Seigneur. Amen. On va passer aux annonces. J'invite Joanne à s'avancer.
Super précis, hein, 11h24, chapeau. Alors, pour les annonces, comme on est passé à un nouveau mois, vous avez le mémo pour mars et avril qui est disponible sur Internet. Ensuite, aujourd'hui à 17h, Gospel Spirit, ici à l'église évangélique. Tu as quelques mots? Oui.
Juste pour présenter Gospel Spirit pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a la chance de pouvoir chanter à 17h dans ce lieu magnifique. Donc Gospel Spirit, c'est une trentaine de choristes, dont Catherine Meyer qui faisait partie de cette église, moi-même, et puis pour la première année, donc Sylvie Barral qui nous rejoint. Et donc on va chanter Gospel Spirit, c'est l'esprit de l'évangile, donc vraiment avec beaucoup de joie et d'émotion. Donc ce concert est un concert de soutien pour un grand spectacle qu'on va faire en fin d'année. Sur l'histoire de la musique gospel. Et donc, l'entrée est libre avec un chapeau à la sortie. Il y aura également vente de pâtisserie avec, pour ceux qui ont trop chaud, la sangria ou bien du jus de pomme chaud pour ceux qui ont froid. Voilà, donc, n'hésitez pas à inviter vos amis, la famille, de venir pour un bon moment de gospel. Merci.
Merci. Donc, mardi, les ateliers bibliques continuent à 20h15 ici à l'église. Dimanche prochain, alors c'est une grande journée, rêver et construire la famille de Dieu. L'enfance, c'est l'affaire de tous. Alors, non seulement c'est à partir de 14h, mais déjà à partir de 10h, il y aura un culte intergénérationnel avec la présence de Joanne Rocha. Donc, il sera aussi là l'après-midi pour animer cet après-midi. Donc, à 10h, le culte avec la présence de Joanne Rocha. Et puis, durant le culte, il n'y aura pas de Sainte Cène. On la fera comme on l'a fait il y a quelques mois en arrière, juste avant le repas communautaire. Donc, il y a un repas communautaire qui est prévu entre deux, repas canadien. Et puis, on avait vécu ce moment-là de manière assez intense, comme ça se vivait à l'époque du temps de Jésus, pendant un repas. Donc, que vous soyez informés, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu déjà il y a quelques temps en arrière. C'était un moment formidable et qu'on tient à recommencer dans ce contexte et dans cette journée de rêver et construire la famille de Dieu. Alors, quand on dit que l'enfance, c'est l'affaire de tous, c'est que c'est pas parce que c'est que pour les moniteurs ou que pour les familles. C'est bien pour tout le monde, pour qu'on ait ensemble une réflexion sur l'enfance de manière générale. Donc, bienvenue à tous, petits et grands. Voilà. Ensuite, mardi 12 mars, je ne sais pas si Claire Lise est là, à la cuisine. Donc, confection de sandwich, besoin de 6 personnes. Il y a l'inscription qui est possible sur le panneau d'affichage dans le foyer, mardi 12 mars, entre 8h30 et 10h30, ici à l'église. Donc c'est pour la conférence Big Questions qui est organisée par le GBU. Ensuite, dimanche 17 mars, alors on enchaîne un peu les repas canadiens, mais c'est très convivial, un colloque, le colloque du printemps, qui sera à 14h15, après le repas canadien. Et puis là, pour le CTT, je crois, Rachel.
Alors, le mercredi 27 mars, on vous invite à venir passer une soirée avec nous. Donc, ce sera dès 19h30, il y aura un moment de louange de 19h30 à 20h. Et puis ensuite, une soirée à 20h, donc voilà, venez soit à 19h30, soit à 20h, et voilà, vous êtes tous invités, si on est trop, on viendra en haut, mais normalement, ça se passe en bas, dans la salle du groupe de jeunes. Voilà.
Euh, Alors, la dernière petite annonce, c'est qu'il va y avoir des photos qui vont passer après la bénédiction. Vous pouvez rester, regarder ou partir, vous lever, c'est comme vous voulez. Voilà. Et alors, la bénédiction est un peu différente que d'habitude. C'est un octuor. Et donc, j'invite ceux qui chantent et ceux qui jouent à venir. Bon dimanche à chacun et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé.